Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Radio Vatican. La publication mardi du message du pape pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui se tiendra le dimanche 25 juillet prochain, la 94e assemblée plénière de la ROACO, la réunion des œuvres d'entraide des églises orientales et les nouvelles de l'église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire et au Bénin notamment constitueront les points saillants de l'actualité de l'Église de cette édition de notre programme. Quant à la deuxième grande articulation de cette édition, l'actualité sociopolitique africaine donc, elle nous informera de ce qui se passe en Éthiopie, au Gabon, au Nigeria, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Il a été rendu public mardi le message du pape pour la première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui sera célébrée le dimanche 25 juillet prochain. Tirant sa réflexion de la promesse de Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Je suis avec toi tous les jours », François, âgé de 84 ans, assume aussi cette phrase comme engagement personnel. « Je suis avec toi tous les jours » sont aussi les paroles qu'en tant qu'évêque de Rome et en tant que personne âgée comme toi, je voudrais t'adresser à l'occasion de cette première journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. « Toute l'Église est proche de toi, disons le mieux. Elle nous est proche. Elle a souci de toi. Elle t'aime et ne veut pas te laisser seule », a-t-il écrit. Le Saint-Père évoque les douleurs liées à la pandémie, notamment la solitude des personnes âgées privées du contact physique avec leurs proches en raison des restrictions sanitaires. Mais le Seigneur est aux côtés de ceux qui font l'expérience douloureuse d'être mis à l'écart, a-t-il expliqué. Malgré la solitude, la fatigue, le poids des routines quotidiennes, les personnes âgées ne doivent pas renoncer à la perspective de répondre aux appels du Seigneur. Il ne faut donc jamais se décourager et aujourd'hui, la reconstruction de nos sociétés meurtries par la pandémie, mais aussi plus largement par une certaine atomisation du lien social et intergénérationnel, passe par trois axes. Les rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur donnera la force d'entreprendre un nouveau chemin, même aux plus fragiles d'entre nous, par les routes du rêve, de la mémoire et de la prière, a expliqué le pape. Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de nous puisse élargir son cœur, le rendre sensible aux souffrances des derniers et capable d'intercéder pour eux. Que chacun de nous apprenne à répéter à tous et aux plus jeunes en particulier ces paroles de consolation qui nous ont été adressées aujourd'hui. Je suis avec toi tous les jours. Alors, allons de l'avant et courage. Que le Seigneur vous bénisse, a conclu le Saint-Père. Le Saint-Père a nommé mardi le Père Andrei Smol, secrétaire pro tempore de la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Le Père Smol est l'ancien directeur national des œuvres pontificales missionnaires des États-Unis d'Amérique. Du lundi 21 au jeudi 24 juin se tient la 94e assemblée plénière de la ROACO, la réunion des œuvres d'entraide des églises orientales à la résidence Pastor Bonus, en présence notamment des nonces apostoliques en mission dans les pays du Moyen-Orient. Mardi, la messe inaugurale a été présidée par le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les églises orientales et président de la ROACO. Au cours de cette célébration, des prières ont été dites pour tous les bienfaiteurs vivants et décédés, confiant au Seigneur à l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu le développement des sessions prévues et en particulier les pays de compétence qui continuent à souffrir des conséquences de la violence, de l'instabilité sociale et politique aggravée par la poursuite de la pandémie. À l'occasion de son jubilé d'or de service sacerdotal, le dimanche 20 juin dernier, le cardinal Polycarp Pengo, archevêque émérite de Dar es Salaam, en Tanzanie, a reçu un certificat de reconnaissance par la présidente Samia Suluhu Hassan pour avoir encouragé la paix et l'unité et les relations entre les différentes confessions. Dans son discours prononcé par le vice-président Philippe Mpango lors de l'événement qui s'est déroulé au centre Mzimbazi de Dar es Salaam, la présidente Suluhu a exprimé sa gratitude envers l'archevêque émérite de Dar es Salaam et s'est engagée à continuer à soutenir les initiatives du leader de l'Église catholique. Les évêques de Zambie ont fait l'éloge du premier président du pays, Kenneth David Kaunda, comme un homme d'État qui a servi de manière désintéressée le peuple de Dieu dans cette nation d'Afrique australe. Certainement, le pays a perdu un combattant de la liberté, un véritable homme d'État qui a uni la nation et un grand leader qui a rendu un service désintéressé à la République, disent les membres de la Conférence des évêques catholiques de Zambie dans leur déclaration le lundi 21 juin dernier. Les évêques d'Érythrée ont dénoncé lundi la fermeture et la nationalisation des écoles catholiques par le gouvernement. Nous sommes profondément attristés et blessés par les mesures que le gouvernement est en train de prendre par la force en s'emparant des institutions éducatives et sanitaires qui nous appartiennent légitimement, ont-ils déclaré. La Côte d'Ivoire a abrité du 14 au 20 juin dernier la 10e conférence régionale Afrique de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques UMOF. Des détails avec notre correspondant local.
12 délégations venues d'Afrique francophone, anglophone et lusophone ont préparé cette importante conférence régionale Afrique de l'UMOF. Durant une semaine, cette rencontre a été l'opportunité pour elles de mener des réflexions en tant que femmes de foi sur la contribution à la paix, à la sauvegarde de l'environnement et pour une société portée par l'espérance d'une vie meilleure, d'où le choix du thème de ces assises d'Abidjan. Femmes catholiques enracinées dans les valeurs chrétiennes œuvrons pour la paix, protégeons l'environnement, portons l'espérance à nos familles et à la société. Et pour Monique Tiandoum, présidente de l'UMOF Afrique, ce thème montre bien l'implication des femmes dans tous les secteurs de la vie. Elle s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture au Palais de la Culture d'Abidjan, Trècheville.
Le thème choisi pour cette conférence orientera la réflexion des participants au cours de ces assises régionales afin de dégager encore des pistes d'action pour une paix durable au sein de nos familles, de nos pays, tout en prenant en compte le développement des femmes à tous les niveaux.
L'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, président de la messe de clôture le dimanche dernier en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, a souhaité dans son homélie que les femmes prennent toute la place qui est la leur dans l'annonce de l'évangile pour réussir cette mission.
Il s'agit pour vous de prendre toute la place qui est la vôtre dans l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Pour réussir cette mission, mettre le Christ au centre de nos vies, ainsi, il vous engage à être ébranlable dans la foi.
Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Rendons-nous au Bénin, où les agents pastoraux du diocèse de Porto Novo ont bénéficié d'une formation en communication sociale.
Témoins du Christ à travers les moyens de communication sociale. C'est autour de ce thème que le centre diocésain de communication Monseigneur Vincent Messant de Porto Novo au Bénin, grâce à l'appui financier de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a rassemblé du 14 au 18 juillet 2021 au centre pastoral de Wando du diocèse une trentaine d'agents pastoraux, prêtres, religieuses et jeunes laïcs pour une formation en communication sociale. Le vicaire épiscopal en charge des communications sociales du diocèse et coordonnateur de la dite formation, le père Eric Okpeitia, nous en a précisé les objectifs.
À la fin de cette session, vous pourriez écrire et envoyer à l'hebdomadaire catholique des reportages, des portraits et des interviews respectant les exigences des gens respectifs précis. Vous pourriez aussi réussir vos entretiens avec n'importe quel journaliste, que ce soit de la radio ou de la télévision. Et vous aurez moins peur d'accepter des débats contradictoires sur les médias.
Et l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo, qui a ouvert les travaux de renchérir.
Puissions-nous sortir de cette session mieux aguerris et outillés, déterminés à nous impliquer en première personne dans l'urgence de savoir communiquer pour mieux annoncer l'évangile à travers les médias.
C'est avec beaucoup de joie que chacun des participants Fon a reçu son attestation de fin de formation à la clôture de la session présidée au nom de Monseigneur Gonzalo Paz, son vicaire général, le Père Ernest Gbedan. Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les opérations de comptage des voix étaient encore en cours mardi en Éthiopie au lendemain de l'élection cruciale, mais incomplète, même si ce double scrutin législatif et régional n'a pu se tenir pour des raisons sécuritaires ou logistiques. Dans un cinquième des 6 circonscriptions, le premier ministre Abiy Ahmed a salué mardi matin la journée historique du 21 juin. Le procès du journaliste marocain Souleymane Raïssouni a repris mardi à Casablanca, alors que le prévenu en grève de la faim depuis 76 jours frôle la mort selon sa famille. Ses avocats l'ont vu lundi, il était très fatigué et frôle la mort, a déclaré son épouse Kolloud Mokhtari avant l'audience devant la cour d'appel de Casablanca. Monsieur Raïssouni, rédacteur en chef du journal Akhbar Al-Yaoum, en banqueroute depuis mi-mars, est poursuivi pour agression sexuelle après une plainte pour des faits qu'il conteste. La justice a rejeté toutes ses demandes de remise en liberté malgré une forte mobilisation du Maroc et à l'international. Le Gabon est le premier pays africain à être payé par des fonds internationaux pour poursuivre ses efforts contre la déforestation sur son territoire recouvert à 90% par la forêt. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministère gabonais de l'Environnement. Depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique de conservation relative poussée pour l'Afrique centrale. Il possède 13 parcs nationaux qui couvrent 11% de son territoire et 20 aires marines protégées. Les fonds reçus seront notamment consacrés à des investissements dans la foresterie communautaire. L'objectif est d'améliorer les revenus, les moyens de subsistance et le bien-être des communautés au Gabon, a indiqué le ministère gabonais de l'Environnement. La police nigériane a annoncé mardi la libération des 4 Chinois employés enlevés la semaine dernière dans le village d'Alagba, dans le sud du Nigeria, sur un chantier de construction ferroviaire. Ils avaient été enlevés le 16 juin dernier par des hommes armés non identifiés qui ont également tué un agent de police affecté à leur protection.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Les présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping ont convenu lundi, lors d'un entretien téléphonique, de restructurer la dette congolaise envers Pékin qui empêche la République du Congo, selon des sources officielles, de reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international FMI. La République du Congo doit à la Chine 1300 milliards de francs CFA, environ 2 milliards d'euros, selon le gouvernement, alors que la dette globale du pays s'élève actuellement en réalité à plus de 6 milliards de francs CFA, soit plus de 10 milliards d'euros au 31 décembre 2020, soit 98% du PIB, a estimé le premier ministre Anatole Kolyné Makoso. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana, un organe destiné à garantir un prix rémunérateur aux planteurs, a tenu sa première réunion lundi à Abidjan et a affiché sa volonté de sortir les producteurs de la pauvreté. Mise en place par la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent ensemble environ 60% du cacao mondial, l'institution doit assurer une durabilité à l'économie cacaoïère, a déclaré l'Ivoirien Alex-Pierre Arnaud Assanvon, son premier secrétaire exécutif. Une cour d'appel du Burundi a ramené lundi de 32 ans à une année de prison la peine de Germain Rukuki, militant des droits de l'homme condamné pour avoir participé à des manifestations contre le président Nkurunziza en 2015, selon des sources concordantes. Cette décision a été rendue publique juste après une rencontre entre le président burundais Évariste Ndayishimiye et l'ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, Claude Bochou. Germain Rukuki avait été condamné en 2018 à l'une des plus lourdes peines jamais infligées à un militant des droits de l'homme au Burundi. Il avait été arrêté en 2017 pour avoir participé en 2015 à des manifestations contre la candidature controversée à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, aujourd'hui décédé.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Place à présent à Marie-Josée Mwando-Boisboileau pour le magazine sur justice et paix.
Notre magazine sur la justice et la paix nous conduit en Afrique de l'Ouest. La sous-région de l'Afrique occidentale est malheureusement en train de devenir le bastion du terrorisme en Afrique. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante, écrit le père Donald Zagore, théologien ivoirien de la Société des Missions Africaines, exprimant toute sa préoccupation et son inquiétude pour la situation dans la région. Le conflit entre les forces gouvernementales et les groupes armés liés à ISIS et Al-Qaïda dans la partie occidentale du Sahel a dévasté une grande partie de la région au cours de la dernière décennie, déclenchant une importante crise humanitaire. Selon une étude récente dirigée par Catholic Relief Service au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le chômage des jeunes et le manque d'opportunités économiques sont la principale cause de violence, poussant de nombreux jeunes à rejoindre les groupes armés. En Afrique de l'Ouest, une élite de 1% de la population possède plus de richesses que le reste de la population et les gouvernements ne font pas assez pour réduire les inégalités par des politiques telles que la fiscalité et les dépenses sociales. Près de 7000 personnes sont mortes à la suite de l'aggravation des combats l'année dernière selon les données du Armed Conflict and Relocation Event Data Project. Et selon les Nations Unies, la poursuite des violences a entraîné le déplacement interne de plus de 2 millions de personnes. Le père Zagore souligne que le nombre de personnes déplacées et de décès est en augmentation. Des populations entières vivant dans des conditions de précarité totale ne peuvent plus faire face, insiste les missionnaires. L'instabilité politique quasi permanente, la violation des valeurs démocratiques, la corruption à grande échelle, la pauvreté de plus en plus prononcée, la montée en puissance des cartels de la drogue et de l'or illégal qui contribuent largement au financement du terrorisme aggravent les conditions sociales, politiques et économiques dans cette partie du continent africain. Tant que nos États resteront prisonniers de tous ces maux sans jamais les combattre vigoureusement, leurs portes seront grandes ouvertes à toutes les formes de violence et au terrorisme par excellence. L'heure n'est plus aux discours et aux éternels sommets sur la lutte contre le terrorisme. Il est temps d'agir. Les gens ne doivent pas devenir prisonniers dans leur propre pays, dit le missionnaire. Parmi les autres incidents graves de violence enregistrés dimanche 13 juin, figure la mort d'au moins deux soldats et d'un gendarme tués par l'explosion d'un engin explosif dans leur véhicule dans la région de Téini, au nord-est de Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon des sources locales, l'explosion a également fait trois blessés moins d'une semaine après une attaque menée par des djihadistes présumés dans la ville de Tougbo, à quelques kilomètres de la frontière burkinabé. Le conflit dans la région du Sahel a provoqué l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec 24 millions de personnes ayant besoin d'aide cette année et 13 millions souffrant de la faim, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Avec ses vastes étendues de désert et ses frontières poreuses, le Sahel s'est révélé être un terrain fertile pour la montée du militantisme islamiste dans l'une des régions les plus pauvres du monde, tandis que le changement climatique a aggravé la concurrence pour des ressources qui s'amenuisent.
Retrouvons Marie-Josée Mwando-Boboalo pour la rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux.
Commençons notre rubrique sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux par la Terre Sainte où les jeunes chrétiens de différentes confessions ont prié ensemble pour la paix à Jérusalem. Hymne, chant, invocation, lecture de l'Évangile, prière d'intercession et à la fin le Notre Père récité en syriaque. Tels étaient les gestes de dévotion et de mendicité spirituelle partagés par quelques 170 garçons et filles des écoles chrétiennes de Jérusalem qui ont participé à la réunion de prière œcuménique organisée à leur intention par le Centre palestinien Al-Sabil pour la théologie de la libération œcuménique en collaboration avec le Bureau de l'éducation chrétienne du Patriarcat latin de Jérusalem. La réunion a été accueillie par l'église Saint-Étienne, officiée par les frères dominicains et a également été suivie par des prêtres de diverses communautés ecclésiales présentes dans la ville sainte. Les élèves venaient pour la plupart de 5 des principales écoles chrétiennes disséminées dans la ville sainte, comme l'école de la Custodie de Terre Sainte et celle des Sœurs du Rosaire à Beit Hanina. Les organisateurs de la rencontre ont présenté l'initiative comme une contribution à la promotion de l'esprit de communion entre les jeunes des différentes communautés chrétiennes en leur offrant l'opportunité de prier ensemble également pour la paix dans la ville sainte où la coexistence des différentes communautés de foi a été déchirée encore récemment par les résurgences des conflits. À l'issue de l'initiative, plusieurs responsables des écoles ont exprimé le désir de reconduire à l'avenir des réunions de prière périodiques, à l'instar de celle qui s'est tenue cette fois dans l'église des frères dominicains. Il s'est tenu vendredi 18 juin à Rome un moment de prière pour la paix au Myanmar. Les représentants des chrétiens, bouddhistes, hindouistes, juifs, musulmans, bahaïs étaient invités à prier pour ce pays, chacun à sa manière. Le rendez-vous pour un moment de prière silencieuse et de méditation était fixé à 15h en streaming et à 19h en présence dans la basilique de Santa Cecilia à Trastevere. L'initiative était promue par Religion pour la paix Italie, Association pour l'amitié Italia-Birmania, la communauté Myanmar en Italie. 4 intentions de prière étaient proposées, à savoir pour le respect des droits fondamentaux de l'homme, pour le rétablissement de la coexistence pacifique, pour la liberté de pensée et d'expression, pour la libération de la peur. Une nouvelle qui suscite la joie et l'encouragement, c'est ainsi que le Conseil œcuménique des Églises commente l'élection samedi 19 juin de la révérende Anne Burghardt comme nouvelle secrétaire générale de la Fédération mondiale de l'Église luthérienne. Âgée de 45 ans, théologienne originaire d'Estonie, Burghardt est la première femme et le premier pasteur d'Europe centrale et orientale à diriger la Fédération mondiale de l'Église luthérienne. Avec elle donc, le pasteur Johann Sauka, secrétaire général par intérim du Conseil œcuménique des Églises, réitère sa volonté de poursuivre l'étroite collaboration déjà présente entre les deux organes. Par votre élection, écrit le révérend Sauka dans une lettre ouverte aux nouveaux élus, le Conseil de la Fédération mondiale luthérienne a reconnu vos capacités avérées de pasteur. Votre témoignage, votre service et votre priorité donnée à la collaboration dans la recherche de l'unité chrétienne et dans la construction de la communauté humaine malgré les frontières. Nous avons travaillé avec vous au Centre œcuménique de Genève, rappelle le révérend Sauka, et nous vous sommes reconnaissants pour votre spiritualité et votre talent. En fait, de 2013 à 2018, la révérende Burghardt a été secrétaire pour les relations œcuméniques au bureau de communion situé à Genève, la même ville suisse où le Conseil œcuménique des Églises est basé. Le message du révérend Sauka se termine par une invocation à Dieu pour bénir l'œuvre de la nouvelle secrétaire générale luthérienne et la soutenir dans son service par une foi forte. Burghardt prendra officiellement ses fonctions début novembre. Marié au révérend Arnd Matthias Burghardt, et les mères de deux enfants.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Niamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie. À très bientôt.